Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre nouveau rendez-vous sur Radio Sépharade. À l'heure où je prépare ce programme, je m'apprête à retourner bientôt en Israël, alors que l'opération Bordure Protectrice en est à son 22e jour d'hostilité. Rien ne semble indiquer par ailleurs que le conflit cessera prochainement. La lumière n'est pas encore au bout des tunnels du Hamas. En dépit de mes vacances auprès de ma fille, je suis accroché aux informations toutes urgentes qui me proviennent de tous les médias du monde. Difficile de prendre du recul. Tout est nouveau, urgent, dramatique, à court terme. À l'heure actuelle, on recense plus d'un millier de morts dans la frange de Gaza. Militants du Hamas et civils hommes, femmes et enfants, confondus dans une nébuleuse létale où les corps déchiquetés se fondent dans une masse sanguinolente dont j'ai cessé de regarder les images. Oui, j'ai cessé de les regarder car je refuse de leur donner la priorité. Elles empêchent toute vision globale, interdisent la réflexion et cachent la forêt derrière l'arbre. Une forêt complexe et inextricable, mais qui devra bien laisser place un jour à une clairière. À l'heure où je vous parle, plus d'une cinquantaine de soldats israéliens sont morts dorénavant pour préserver les frontières du pays où je vis et 3 civils sont décédés suite aux tirs de roquettes incessants du Hamas. Pauvres civils en Israël, pour qui la coupole d'acier n'a rien pu faire et dont l'absence de refuge leur a joué un mauvais tour. Je pense notamment à ces travailleurs thaïlandais et à ces bédouins dans le désert qui n'ont que quelques branches pour s'abriter de ces missiles tirés à l'aveugle, mais qui tuent. Je pense à mes amis du kibbutz Holit et des autres kibbutz, situés à quelques encablures de Gaza. Ils vivent la plupart du temps terrés dans leurs abris, mais en plus aujourd'hui, ils redoutent plus que jamais qu'un militant du Hamas s'infiltre chez eux par un souterrain et les tue ou les kidnappe. Outre la nécessité du recul, difficile par rapport aux événements, se pose la question de la compassion. Je connais des Palestiniennes et des Palestiniens à Jérusalem, notamment à l'Ulpan où j'apprends l'hébreu. Je les côtoie et certains sont même des amis. Ils sont modérés, ils apprennent l'hébreu pour leur avenir, afin de discuter, négocier, commercer avec leurs voisins dorénavant indéracinables. Et ils ont envie de vivre, de bien vivre, de vivre pleinement, de vivre même en dépit de l'occupation, et dans l'espoir que leur gouvernement mettra tout en œuvre et usera de toute son astuce pour obtenir un accord de paix favorable et durable. Non, on ne parle jamais du Hamas. Je ne les imagine d'ailleurs pas vivre à Gaza. Ils et elles sont fiers de leur histoire, de leur culture, de leur tradition et aspirent au dynamisme et à l'ouverture qu'ils observent dans les sociétés occidentales, dont Israël. Je le vois dans la pupille de leurs yeux. Je connais les soldats qui sont morts au front. Ce sont des amis d'amis et d'autres amis. Je sais ce qu'ils pensent, comment ils sont faits, ce à quoi ils aspirent. Je prends des verres avec eux, on rigole aux mêmes blagues. Mais au milieu d'une blague, dans un sourire, en un instant, ils sont appelés à la guerre, ils font leur boulot pour défendre un bout de terre qui leur appartient. Chacun en Israël ressent la mort d'un soldat, comme un peu sa propre mort, ou pire, la mort de son propre enfant. Et je ne peux m'empêcher de ressentir la même chose et d'avoir la chair de poule. Je ne connais personne de Gaza. Il est difficile, voire impossible aujourd'hui, de connaître les sentiments, opinions et aspirations de ces gens pris dans l'étau du Hamas et de sa censure, qu'elle soit volontaire ou imposée. Mais sans les connaître, on ne peut rester insensible à ces morts cruelles. Et la même chair de poule me saisit. Cette population de Gaza subit les bombardements incessants de l'aviation israélienne et je compatis d'autant plus à son sort qu'elle est livrée au bon vouloir d'un groupe sanguinaire qui se réjouit de chaque mort, de chaque martyr et ne veut pas la fin des hostilités de peur de perdre l'avantage de la mort par-delà la vie. De l'extérieur, la majorité des opinions négatives, insultantes et antisémites sont ce qu'elles sont, irrationnelles, donc antisémites. Je ne tolère plus les opinions qui invoquent un antisionisme de bon aloi ou critiquent du gouvernement en place, mais qui se fondent en réalité sur une méconnaissance des faits ou sur des faits historiques incorrects et imprécis. Israël est le terrain parfait des partisans du manichéisme, du blanc sur fond noir, et c'est bien le seul conflit dans le monde qui s'y prête. On peut se demander pourquoi, tout en sachant la réponse à l'avance. Quand mon interlocuteur met en doute des faits historiques avérés, comme les caches d'armes du Hamas dans les écoles de l'ONU, ou comme le fait qu'Israël s'est désengagé de Gaza en 2005, et se refuse à le croire en dépit de documents officiels, de cartes, de résolutions des Nations Unies, eh bien j'arrête net la conversation, parce que je sais que j'ai affaire à un antisémite, et je plonge alors en plein désarroi. Oui, l'antisémitisme est toujours très présent au XXIe siècle. Pour terminer, je voudrais citer une partie de l'interview accordée le 26 juillet par Alain Finkielkraut dans Le Figaro pour insister sur la perversité de cette guerre, en particulier. Je cite « Pour le Hamas, pas question de deux États, pas question non plus d'un État palestinien. Ce qu'elle veut, c'est que la Palestine tout entière redevienne propriété de l'islam. On apprend dans sa charte que les Juifs, qui, grâce à leur argent, contrôlent les médias du monde entier, sont à l'origine de toutes les révolutions et de tous les conflits à travers le monde. Si la civilisation de l'image n'était pas en train de détruire l'intelligence de la guerre, personne ne soutiendrait que les bombardements israéliens visent les civils. Avez-vous oublié Dresde ? Quand une aviation surpuissante vise des civils, les morts se comptent par centaines de milliers. Non, les Israéliens préviennent les habitants de Gaza de toutes les manières possibles des bombardements à venir. Et lorsqu'on me dit que ces habitants n'ont nulle part où aller, je réponds que les souterrains de Gaza auraient dû être faits pour eux. Il y a aujourd'hui des pièces bétonnées dans chaque maison d'Israël. Mais le Hamas et le djihad islamique font un autre calcul et ont d'autres priorités architecturales. Pour gagner médiatiquement la guerre, ils veulent faire apparaître Israël comme un État criminel. Chaque victime civile est une bénédiction pour eux. Ces mouvements ne protègent pas la population, ils l'exposent. Ils ne pleurent pas leur mort, ils comptabilisent avec ravissement leurs martyrs. Et ils bombardent méthodiquement l'hôpital de campagne pour les blessés palestiniens que l'armée israélienne a installés en bordure de Gaza. Je manifesterai moi-même à Paris en faveur du cessez-le-feu à Gaza, si dans ces défilés on exigeait également l'arrêt des tirs de roquettes sur toutes les villes israéliennes. Je demanderais la levée du blocus si elle était assortie de la démilitarisation de Gaza. Au lieu de cela, on confond Gaza et Sarajevo. Là où il y a la guerre, on parle de massacre, voire, tant qu'on y est, de génocide. Toutes les distinctions sont abolies par l'émotion et ce sont les plus cyniques, les plus inhumains qui profitent de cette grande indifférenciation humanitaire. Ensuite, à la question du journaliste qui invoque une comparaison, dans la bouche de certains, entre Gaza et le ghetto de Varsovie, Finkielkraut répond avec une grande dose d'ironie. Oui, on se souvient en effet que la Wehrmacht prenait soin, comme Tzahal aujourd'hui, de sécuriser les routes menant au ghetto pour y faire parvenir sans encombre les transports quotidiens de vivres, de médicaments, d'aide humanitaire. Le jour viendra, il est déjà venu en Turquie, où on ne se référera plus à l'apocalypse nazie que pour incriminer Israël, le sionisme et les juifs. Je n'arrive pas à croire en Dieu, mais ce retournement du devoir de mémoire me paraît être une preuve très convaincante de l'existence du diable.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison, des arbres, avec un lit de mousse pour y faire l'amour, et un petit ruisseau roulant sans une vague, venez le rafraîchir et poursuivez son cours. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée. Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin qu'on appelait. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la, la la la, la la la. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître? Où nous aurions pu vivre insouciants et nus? Où est cette maison toutes portes ouvertes que je cherche encore et que je ne trouve plus? La la la, la la la.